Le micro de Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos sur Radio Canal K.
Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Cet adage rattrape-t-il l'ancien ministre de l'administration territoriale Pascal Bodouna, qui est arrêté samedi dernier et gardé à la gendarmerie de Lomé? Eh bien, c'est ce que constatent les Togolais. On l'appelait ministre grand format non seulement à cause de sa taille et de sa corpulence imposante, mais surtout à cause de la façon dont il défendait corps et âme le régime de Gnassingbé le père jusqu'à l'arrivée au pouvoir du fils Faure Gnassingbé. Bien arrêté dans une affaire d'escroquerie internationale d'une valeur à peu près de 25 milliards de francs CFA, Pascal Bodouna évoque une instrumentalisation de la justice togolaise où elle devrait normalement comparaître le 7 septembre. Tollé général au sein de la classe politique togolaise qui pense que cette affaire à la lue où elle VAR est traité comme une affaire d'État. Certaines sources nous font croire que le jeune président Faure Gnassingbé piloterait cette affaire depuis son palais présidentiel. La justice togolaise rattrape-t-elle les tout-puissants comme le Togolais ordinaire? Jusqu'où le collectif Sauvons le Togo est-il prêt à aller? Que vient pour en parler Abbas Kaboua, coordinateur du mouvement des républicains centristes, proche de la famille Bodouna, est l'invité du micro de Fenêtre sur l'Afrique. Abbas Kaboua, bonsoir.
Oui, bonsoir Amos. Et bonsoir à toute la Suisse.
Merci beaucoup à Abbas Kaboua d'être l'invité du micro de Fenêtre sur l'Afrique. Vous êtes le coordinateur du MRC, Mouvement des Républicains Centristes. Vous êtes aussi membre du collectif Sauvons le Togo. Vous avez assisté à l'arrestation de l'ancien ministre Pascal Bodouna, celui-là même qu'on appelait l'homme fort du régime d'Yadema et de Faure Gnassingbé même. Hein. Au moment où nous entretenons avec vous, et cet ancien ministre, bien sûr, vomi par certains Togolais, est pris de pair de liberté, vu son rôle lugubre dans la gestion du pouvoir, est toujours gardé à la gendarmerie. Alors, Abbas Kaboua, comment expliquez-vous la situation actuelle?
Non, vous savez, je voudrais d'abord vous remercier toute la diaspora qui nous écoute. Et comme vous-même vous l'avez dit, enfin, vous l'avez annoncé dans votre générique, on sera toujours attrapé, nous tous, un jour, d'une manière ou d'une autre. Par ce que nous faisons aujourd'hui. Je veux parler de nos actes, qu'ils soient positifs ou négatifs. Mais moi, en tant que politicien, parce que je ne veux pas trop parler de mes liens de parenté avec M. Bodouna, je veux prendre le problème comme tous les Togolais. Et je voudrais dire simplement que quand c'est l'injustice que nous constatons, nous sommes obligés de lutter. Puisque nous luttons contre l'injustice au Togo. Donc, ce n'est pas parce que c'est Pascal Bodouna que Faure Gnassingbé veut tricher allègrement, comme ils ont triché des millions ou des centaines de Togolais, depuis son père jusqu'à lui, qu'il faille mettre Bodouna de côté sur la liste. Aujourd'hui, Bodouna même est en train de porter sa croix. Et Bodouna, je suis sûr que là où il est aujourd'hui, si on dirait qu'un jour, lui contactait le numéro 2, devait se retrouver derrière les barreaux. Il porte aujourd'hui sa croix, Dieu va l'aider, peut-être à la porter. Mais je dis simplement que, et il savait, lui-même savait qu'il allait peut-être avoir des amis un jour avec le fils Gnassingbé. Je veux parler de Faure Gnassingbé. Déjà, en 2009, il a été raté dans l'affaire de Faure Gnassingbé, parce qu'à l'époque, déjà, on avait préparé des gens de citer son nom. Des gens arrêtés et torturés. L'Agence nationale de renseignement au Togo avait préparer des gens de citer le nom de M. Bodouna Pascal. Ce que vous ne savez pas, Pascal n'est pas en réalité l'ami de Faure Gnassingbé. C'est Pascal l'ami de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé ne connaît personne. Même Faure Gnassingbé passait tout son temps à faire le business de papa, à manipuler l'argent à l'extérieur, puis les filles et l'alcool. C'est tout. À l'extérieur. Faure Gnassingbé n'a pas d'amis au Togo. Ça, il a pris des gens parce que, bon, il a appris que les Bodouna ont créé le Hakam à l'université, ils ont défendu bec et ongle son défunt père et tout.
Abbas Kaboua.
En réalité, son ami s'est fait indigner. C'est pour cela que on voulait l'arrêter déjà en 2009.
Abbas Kaboua, excusez-moi, et revenons encore une fois, ou bien parlons. Et encore une fois, de cette affaire, puisque c'est de ça qui est quand même le sujet de notre entretien. Et l'émirati Abbas Youssef, le plaignant, lors d'une conférence de presse tenue cette semaine à Lomé, a démontré et prouvé qu'il a été vraiment victime d'une grande escroquerie à l'international. Et ce qui reste quand même encore à vérifier, hein, car ce dossier est très profond. Mais finalement, loin des polémique politique autour de cette arrestation. Le chef de l'État n'a-t-il pas bien fait d'ordonner la justice de faire son travail? Selon vous, Pascal Bodouna ne doit pas être arrêté à son domicile pendant que l'affaire est toujours à la justice, à Abbas Kaboua.
Exactement, parce que il a interdit appel pour que le juge qui est sur l'affaire soit dessaisi. Bon, alors voilà que la chambre d'accusation doit se prononcer aujourd'hui, le 7. Hein, le 7 et le 1er septembre, le chef de l'État et l'arabe, voyant que tout ce l'arabe n'est pas venu lui-même ici, l'arabe lui-même, et au passage, je voudrais vous dire, l'arabe n'a rien prouvé le samedi, puisque nous sommes là sur le territoire, l'arabe n'a pas même fini sa conférence de presse, il est parti en catastrophe, parce que assailli de questions par la presse nationale et internationale, il ne pouvait plus répondre, et il dit que non, que l'escroc principal qui se fait être M. Agba Bertin, qui est le cousin, donc de M. Bouguera Pascal, et que c'est ce dernier qui lui a présenté au ministre. Donc il pense que le ministre a dû jouer un rôle déterminant pour que lui, il puisse avoir confiance donc, à celui qui l'a escroqué. Jusque-là, aucune preuve n'établit directement que M. Bouguera est impliqué dans cette escroquerie-là. Mais ce qui est fantastique à constater dans le dossier, c'est que Fom Niazibé en fait aujourd'hui son dossier personnel. Puisque l'Emirati mange avec lui, c'est lui qui a envoyé des émissaires le ramener au Togo. Nous, on pensait que l'Emirati, une fois arrivé au Togo, devait également être mis sous verrou, puisqu'il a investi 48 millions de dollars dans ce que nous appelons communément cybercriminalité, puisqu'il est venu pour prendre l'argent de ce président Robert Guéï de la Côte d'Ivoire, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, le général Robert Guéï. Il paraît qu'il a laissé ses fonds à la Banque centrale du Togo et que pour les avoir, il faut dépenser pour négocier et prendre ces sous-là. Je ne pense pas que l'Emirati soit un oncle ou un parent de ce Robert Guéï qui est ivoirien. Mais c'est le fait que Fon Niazibé s'approprie aujourd'hui ce dossier qui un peu choque tout le monde.
Justement.
Et depuis un moment, tout le monde a constaté que Fon Niazibé a créé son nouveau parti.
Oui, justement, Abbas Kaboua, hein, à ce jour, le dossier semble quitter le terrain du droit, hein, et se règle avec des juges hors pair, et Monseigneur Bariga de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, et la représentante du Haut Commissaire des Droits de l'Homme au Togo, Ige Ola Tokumbo, sont en médiation pour obtenir un règlement à l'amiable. Selon vous, est-ce la meilleure option, Abbas Kaboua?
Non. D'entrée de jeu, à moi, je vais vous dire non, dans la mesure où d'autres peuvent penser ce qu'ils veulent. Moi, j'ai parlé avec Bodouna, je lui ai demandé, est-ce que tu es mêlé à cette affaire? Bodouna s'est levé, il est rentré dans sa chambre à coucher, il m'a ramené un petit boîtier dans lequel se trouve une montre Rolex en or. Il m'a dit, voilà ce que le monsieur, quand je l'ai reçu à mon cabinet, voilà ce qu'il m'a offert. Mais avant cela, ils ont rendu visite à Fon Niazibé, il a offert à Fon Niazibé une montre en or certifiée de diamant. Il a offert au président de l'Assemblée nationale du Togo, Abbas Bonfo, une montre en or également. Il a offert au ministre des Mines de l'époque, M. Damiti, une montre en or également. Il a offert, tenez-vous bien, ce n'est pas Pascal Bodouna qui a introduit cet émirati dans le bureau de Fon Niazibé, mais le conseiller spécial de Fon Niazibé, M. Olivier Demet, qui est français, qui a grandi avec Fon Niazibé. Il a reçu également des cadeaux jusqu'au directeur général de l'ANR. Le problème a quitté aujourd'hui le terrain juridique pour devenir un dossier politique. Tout simplement parce que Bodouna n'étant plus dans le nouveau parti de Fon Niazibé, Unir, il n'est même pas membre fondateur. Il leur a délivré juste leur interdiction, je ne sais pas si c'est provisoire ou définitif, mais il redoute que Bodouna se présente à Kara comme député indépendant et il va gagner. Ça, c'est clair, il gagnera. Mais alors, un Bojona candidat pour être président de l'Assemblée nationale, donc le perçoit, ça passera comme une lettre à la poste. Voilà un peu leur calcul qu'ils ont fait. Et que Bojona, en sourdine, nourrisse vous comprenez, il va être candidat en 2015. Mais nous ne sommes pas encore en 2015, on ne sait pas beaucoup de choses qui vont encore arriver. Aujourd'hui, Bojona est à la gendarmerie. Qu'est-ce qui nous dit que Fonia Zingueli va atteindre 2015?
Bien sûr. Abbas Kaboua, parlons maintenant de l'insurrection, du climat insurrectionnel au Togo. Le gouvernement togolais vient d'adresser de nouveau une invitation presque à toute la classe politique pour un dialogue. Bon, nous avions appris que votre parti, le MRC, n'est pas quand même invité, mais néanmoins, vous faites aussi partie aussi de ce collectif. Il y a environ deux ou trois parties de ce collectif, souvent le Togo, qui est invité à ce dialogue. Alors, croyez-vous au dialogue comme un moyen de sortie de crise au Togo, à Abbas Kaboua?
Non, vous savez, partout où il y a problème, il faut dialoguer. Ça, c'est vrai. Mais seulement, le dialogue au Togo est imposé par ceux qui sont venus capter le pouvoir pour écraser tout le monde. C'est ça qui ne peut pas marcher. Vous comprenez? Le nouveau dialogue que nous allons ouvrir au Togo va faire le 18e. Alors, vous voyez, 17 dialogues infructueux. À chaque fois, nous prenons des engagements. Et c'est le régime, le même régime qui est là depuis 45 ans. Donc, Nadine de père et fils, ce sont eux qui mènent la danse. C'est-à-dire qu'on commence, on fait semblant d'exécuter la feuille de route. Alors, on fait un chapitre et puis, hop, on annule tout, on déclenche une nouvelle crise. Tout ça, c'est de la manipulation, de l'intimidation gratuite. Moi, je vais vous dire quelque chose. Le premier ministre qui a signé les invitations, il était candidat pour être député à l'Assemblée nationale en 2007, lors des dernières législatives. Il était, tenez-vous bien, ministre de l'administration territoriale. Il a organisé ses élections. Il a eu 0,2%. Vous pensez que ce type-là, que moi, j'ai dépassé en pourcentage, j'ai eu 78%. Vous pensez que ce type peut mener un dialogue et réussir quelqu'un qui n'a pas l'adhésion dans sa propre classe, comme nous avons l'habitude de dire vulgairement en Afrique. Il n'a même pas l'adhésion dans sa propre classe. Vous pensez que lui peut convoquer des gens venant d'autres classes et ça va marcher? Non, je ne pense pas. C'est une erreur monumentale. Ce n'est pas lui de décider de telle ou telle partie. Le CSC, c'est un ensemble de partis politiques et des associations de défense des droits de l'homme. Donc il y a des organisations des ONG avec nous. Ce n'est pas à eux de nous dire, on prend seulement deux dans le CSC de façon individuelle pour mieux nous diviser et tout. Non, ça s'appelle pas un plan bien établi. Ils sont allés réveiller des partis qui n'existent même plus. Tenez-vous. Vous vous rendez compte que le parti de l'ancien secrétaire général de l'OIA, Edem Koto, CPP, il n'a même pas un seul député, il n'a pas un seul élu, mais le RPT continue par le maintenir dans l'organisation des élections au Togo, à la CENI. C'est la même chose avec
Abbas Kaboua, le RPT n'existe plus.
Non, vous savez, c'est juste, c'est la continuité, unir, c'est le RPT. C'est comme ça que nous appelons ça dans le pays, c'est le RPT qui continue sous notre appellation, point barre. Et Zarifou Aïba, PDR, continue par siéger à la CENI alors que ce monsieur n'a même pas eu 2% lors des dernières élections législatives chez lui à Taoudo, à son côté. Vous pensez qu'avec ces gens-là qu'on appelle point dialogue, nous pouvons nous asseoir? Ils ont appelé l'UFC. Aujourd'hui, l'UFC est devenue sœur siamoise de unir EPT Gazingé. Vous comprenez? Vous pensez que ces gens-là peuvent mener un dialogue pour que le Togo puisse retrouver la paix, la stabilité? C'est pour cela que nous demandons le départ de Fonia Zingué. Le dialogue sera mené par une médiation internationale et nous négocierons comment il partira. Point barre.
Abbas Kaboua, merci infiniment d'avoir été l'invité du micro de Fenêtre sur l'Afrique. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du MRC, Mouvement des Républicains Centristes. Vous êtes également membre du collectif Sauvons le Togo.
Le micro de Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos sur Radio Canal K.